Vous êtes sur Radio Loisance et vous écoutez
J'ai toujours entendu ça.
Une émission de reportage et de témoignages autour des habitants d'ici, d'hier à aujourd'hui.
C'est tout de suite, épisode 4, avec
Monsieur et Madame Jamais, leur fils et leur petite-fille. Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Loisance et aujourd'hui nous sommes en compagnie de Janine et Guy Jamais, ainsi que de leur petite fille Claire et de leur fils
Didier,
pour parler de la transmission d'une ferme d'une génération à l'autre, la ferme de Montbulin, qui est à Romazy, je ne me trompe pas. Alors Guy, est-ce que vous pourriez vous présenter ?
Agriculteur.
Et alors vous étiez agriculteur où ?
À Montbulin.
C'était une petite ferme ?
27 hectares.
Et alors, vous pourriez peut-être nous raconter comment vous avez eu cette ferme et pourquoi ? Je crois que c'est après un malheureux événement.
Oui.
Mais c'est une anecdote qui est quand même atypique. Est-ce que vous pourriez nous raconter ça ?
Oui, c'est celui qui était parent de la ferme. Il a son le voisin de chambre nettoyé son fusil. Et il y avait une balle dedans. Il a tiré, puis il a été tué. Si bien que la ferme a été reprise par nous.
Hein? C'était ton grand-père qui est arrivé sur la ferme en premier.
Donc c'est votre grand-père et c'est votre cousin qui devait reprendre la ferme, c'est ça ? Et qui du coup a pris cette balle perdue, malheureusement. C'est bien ça ? Je ne me trompe pas.
C'est peut-être une génération avant, non ? Je ne sais plus. Tu m'as raconté ça, mais il y a longtemps, je ne me souviens plus, moi. Je ne sais pas.
Et donc, vous êtes arrivé à Montbulin. Et alors, vous avez commencé par quoi, là-bas ? D'abord, les vaches ?
Les vaches et les cochons, que j'ai toujours regretté. Mais mon beau-père et le marchand d'aliments, ils m'ont tanné jusqu'à minuit. Et je finis par l'accepter. Et j'ai toujours regretté, parce que l'argent du lait allait pour payer l'aliment des cochons. Et quand Didier est venu comme...
Pour venir vous aider, oui. Vous accompagner sur la ferme, oui.
Et puis, lui, il a cassé le contrat, et il a bien fait.
Pas tout de suite, quand on a pu, mais ça a été compliqué.
À partir de ce moment-là, on a fait de l'argent, et de l'argent, parce que les cochons, pas question.
Le contrat des cochons, on va appeler ça le contrat des cochons, il a démarré quand, et vous l'avez rompu quand ?
Ça a démarré, c'est dans les années 70, c'est 70 ou 71, je crois, la porcherie. Première porcherie, je crois. Oui. Et puis on a arrêté en 88, par là, 87 ou 6, je ne sais plus, enfin dans les. Ouais, 86, 7, je pense, ouais.
Tu te rappelles mieux que moi.
Donc vous êtes mis en GAEC ensemble,
c'était pas un GAEC, j'étais associé d'exploitation. Mais quand je suis revenu après un bac général et puis un BTS agricole, la situation était très compliquée au niveau de la ferme et financièrement. Et donc, papa et maman m'ont laissé les rênes totales à 19 ans de la ferme pour restructurer la totalité. Et
c'est Didier qui nous a sorti
de. Et on a réussi à sauver les meubles et à rembourser toutes les dettes pour la retraite.
Alors, qu'est-ce qui n'allait pas, du coup ?
Non, en fait, il y avait eu un investissement déraisonné au niveau des ports avec de mauvais investissements, c'est-à-dire que papa et maman étaient naisseurs-engraisseurs, donc ils avaient les truies, ils élevaient les porcelets et jusqu'à l'engraissement, toute la chaîne. Et ils avaient beaucoup investi dans les bâtiments pour l'engraissement, pour les truies gestantes, pour le sevrage des porcelets, mais la maternité qui était la base de tout, il n'y avait pas eu d'investissement, c'était des choses du rafistolage dans une vieille grange. avec des déperditions de chaleur, mais incroyables. Il y avait des notes d'électricité folles. Et du coup, ça a creusé un trou. Et puis quand c'est parti... Et ajouter à cela la malchance des cours du port qui sont dans le scie. Vous aviez le don de vendre à chaque fois qu'il y avait dans les creux, quoi. Donc c'est vraiment, il y avait de bons résultats techniques. Hein. Il n'y avait rien à dire, sauf pour la maternité, hein, qui était la base de tout. Mais
c'est Didier qui nous a sauvés.
La ferme, oui. on peut dire ça, mais bon. Voilà. On l'a fait ensemble. Mais il a fallu... faire beaucoup d'efforts.
Et vous, Janine, vous faisiez quoi à la ferme? Quelles étaient vos tâches journalières?
J'aidais à tout.
Travers les vaches.
Non seulement tu aidais, mais c'est toi qui t'occupais des vaches, des veaux.
Les vaches, les veaux.
Et la popote, et la maison, et vas-y.
Et tout, oui.
Oui, beaucoup.
Vous meniez le tracteur aussi?
Oui, l'armée, oui.
Mais pas souvent. Hein, le tracteur, moi quand j'étais là, en tout cas, tu n'avais plus besoin. Mais c'était pas ta... Tu le faisais peu à l'époque.
Oui.
Mais par contre, tu avais bien assez.
Bon, la mythologie familiale dit toujours que tu cerclais les betteraves la veille de la naissance des jumeaux, quand même.
Ouais, tu travaillais jusqu'au bout, oui. Non,
oui. Un an après le mariage. Et puis, la fille, 3 ans après.
Oui.
Et Didier, le petit dernier, il est né avec une dent.
Ah oui.
Ah. On a une voix,
c'est pas une légende, c'est une réalité.
La dent était jaune, et puis il a fallu attendre 7 ans. Oui, c'est à 7 ans que
je l'ai perdu.
Elle est tombée là-dedans et une belle petite branche qui est sortie. Et il y avait des gens qui nous disaient, vous devriez la faire arracher. On n'arrache pas une dent à un bébé quand même.
Et alors dans cette ferme, vous avez vécu l'époque du remembrement.
Oui.
Est-ce que c'est... Comment ça s'est passé pour vous, cette période-là, sur vos champs?
Je ne sais plus tant.
Ah, mais moi, j'ai pas de souvenir de ça. J'étais petit, moi, quand le remembrement a...
Comment ?
Moi, j'étais petit quand il y a eu le remembrement.
Ah oui ?
Et encore, à Romazy, est-ce qu'il y a eu un remembrement sur la commune de Romazy ? Il y a eu des échanges, mais est-ce qu'il y a vraiment eu un remembrement ?
Il y a eu... On a arraché les talus.
Oui, donc il y en a eu un quand même, c'est sûr. Oui. Vous aviez des... Vous aviez encore les deux, vous aviez quelques grands champs, mais enfin, grands. Aujourd'hui, ce ne serait plus des grands champs. Hein. Ça restait très raisonnable. Et vous aviez encore beaucoup de petits champs, malgré tout.
Oui.
Et un verger de pommes à cidre.
Au moins, il y avait le verger, c'était groupé, au lieu d'avoir les pommiers dans les champs un peu partout.
Mais vous ne buviez pas de cidre. C'était une ferme exceptionnelle dans la région. C'est que moi, je n'ai jamais vu de cidre à table... À la maison, ni de vin d'ailleurs, on ne buvait pas d'alcool. Mais mon grand-père, hein, c'est toujours ce que tu as raconté, je ne sais pas si tu l'as déjà raconté, mais aurait bu son premier verre de cidre à 27 ans, parce qu'il n'a pas osé refuser quand il est allé pour la première fois chez les parents de ma grand-mère. Et donc, ils lui ont offert un verre de cidre, et il a bu à 27 ans son premier verre de cidre.
Et il a eu du mal à le boire.
J'ai eu du mal à le boire. Le premier, c'est le plus difficile.
Et ouais. Cette ferme, vous étiez propriétaire de cette ferme ?
Locataire.
Locataire.
Oui.
Alors, vous aviez la Saint-Michel ?
Oui.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que c'était, cette Saint-Michel ? Qu'est-ce que ça représentait pour vous ?
Le paiement.
C'était le loyer, non ? Vas-y.
Ah ben oui, c'était le loyer, mais heureusement qu'on avait notre fils, parce que... on avait du mal, mais...
Donc le loyer des bâtiments et aussi des terres agricoles ?
De tout, ouais.
Oui.
De tout, et puis à l'époque, il y a eu pas mal de fermes dans la région où les agriculteurs ont acheté le terrain sous les bâtiments. Et nous, il n'y avait pas possibilité, on n'avait pas les moyens, donc on n'a rien acheté, ce qui fait qu'il n'y avait strictement rien à nous, y compris les bâtiments qu'on avait construits. Tous les bâtiments d'élevage n'étaient pas à nous, puisque ce n'était pas notre terrain de soupe. Ah, okay. Donc quand on a arrêté, on n'a pas pu les valoriser parce qu'on n'avait rien à nous.
Il y en avait qui essayaient de nous décourager. Au Crédit Agricole, au Crédit Mutuel, ils allaient dire qu'on n'aurait jamais pu faire face. Mais on a
aussi quand même.
Il fallait trouver une autre solution parce que vous n'alliez pas vous en sortir, c'est ça que vous disiez?
Bah, c'était parti trop loin, ouais. Le trou était trop profond. Et on a réussi quand même, ça a été au prix beaucoup d'efforts, hein, de travail. Mais...
Ouais.
Non, je dis, on a réussi quand même, malgré ce que pensaient les banques, on a réussi à sauver l'affaire.
Ouais.
Et alors aujourd'hui, cette ferme?
Et c'est grâce à Didier.
Elle est passée dans d'autres mains?
Alors oui. Chose qu'on n'a pas dite, mais je ne sais pas si papa vous l'avait dit déjà, mais on avait fait une reconversion à l'agrobiologie. On avait fait, donc j'avais entre 87, on a commencé à 88 et 93, on est passé en agriculture biologique. Donc on a arrêté les porcs, ouais, ça devait être 86-7. Ensuite... on a gardé les vaches laitières, on avait un très bon troupeau laitier, et on a fait une année et demie en bio avec les vaches laitières, et puis après, comme il n'y avait pas de repreneur, on a cherché un repreneur pour essayer de récupérer, enfin de vendre notre troupeau, de vendre les bâtiments d'élevage, du coup, à quelqu'un qui aurait repris le foncier. Et on n'a pas trouvé, parce que les propriétaires ont dit, puisque... Ça avait toujours été. Les locataires avaient toujours été dans la famille Jamais. Comme les Jamais allaient arrêter l'agriculture, ils ont décidé de vendre le foncier en même temps que nous. Et donc, moi, j'avais trouvé des gens pour éventuellement reprendre en location, en bio, mais ils ne pouvaient pas, acheter le foncier. Donc, c'est que ça a capoté. Donc, la ferme a été divisée entre deux exploitants.
D'accord.
Et elle est retournée en conventionnel. Et elle est revenue en bio maintenant. Il y a quelqu'un qui a repris.
Au sac, c'est bien barré, ça.
Oui.
Et du coup, vous avez déménagé. Vous êtes allé vous installer dans une autre maison.
Toujours à Montbulin, mais vous avez quand même changé de maison.
Et dans cette maison, il me semble qu'on fait du pain.
C'est Didier qui a fait la maison.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que comme on ne pouvait pas rester forcément dans les bâtiments d'habitation de la ferme, on avait acheté une maison derrière un rénové, pareil, dans les mêmes années, hein, 80 et quelques, et on l'a retapé pour que papa et maman aillent prendre leur retraite là-bas, quoi, en fait. Donc, ils n'ont pas changé de village, ils sont restés à Montbulin.
Oui.
Mais ils sont passés dans la maison voisine à 30 mètres de l'ancienne. Et voilà. Donc ils ont pu rester à Montbulin, puisque c'était leur souhait. À un moment, elle ne se voyait pas du tout à l'époque. Elle disait « Ah non, moi je ne pourrais pas vivre ailleurs que là.
» Ben oui.
Parce que vous aimez le paysage qui l'entoure. Ça fait partie de vos...
Oui, et puis on connaissait bien quand même...
Par contre, on avait un ouvrier agricole qui était solide. Et moi, à 15 ans, je n'avais pas la force. Le bas dans les rochers, il y avait beaucoup de cailloux. Le bas tombait, j'avais du mal, j'en pleurais.
Vous n'étiez pas assez costaud, c'est
ça? Non.
C'est vrai que ce n'est pas une ferme de très bonne qualité au niveau de la terre aussi. Hein. Beaucoup de terre très rocailleuse, ou des prairies très humides, il y avait les deux.
Oui.
Donc ce n'était pas une très bonne qualité de terre en plus.
J'ai vu un souvenir aussi quand le gouvernement avait. Parce que les arbres, ils avançaient des branches, tout passait par nos prés, nos prairies. Et un jour, pour en sortir, on est monté dedans, et puis on se dirigeait pour reprendre la route plus sèche, plus loin.
Ah oui, d'accord.
Et donc, oui, dans la maison que vous habitiez avant de venir ici, en train, à la Loisance, c'est Claire maintenant et Sylvain qui l'habitent et qui ont construit un fournil maintenant dedans, qui font du pain dans votre maison, à côté de la maison.
Bah oui, moi c'est... je me souviens de la ferme, de la maison où vous habitiez avant la fin de l'activité. Moi j'ai des souvenirs là-bas jusque vous aviez déménagé, j'avais 6 ans. Et bah aujourd'hui, Sylvain il a commencé, mon compagnon, donc moi je suis une des 10 petits enfants de Guy et Janine. Oui, il était lagueur, Sylvain, mais du coup il a fait une reconversion et on n'avait pas de lieu nous où mettre un fournil. Donc en provisoire, on avait demandé à la famille si c'était possible de mettre un four à pain mobile sous le hangar.
Oui.
Et du coup, Sylvain, il s'est construit une petite pièce en bois et paille sous le hangar. Et puis, il a mis son four. Et puis, finalement, vous êtes allé à la maison de retraite plus tôt qu'on avait imaginé. On n'avait pas du tout imaginé ça comme ça, parce qu'au départ, il venait faire du pain. Vous étiez là.
Oui.
Donc le mardi matin, il venait vous faire un petit coucou. Tout ça, c'était chouette. Et puis, finalement, on s'est posé la question de savoir ce qu'on faisait de cette maison. Et on est venu s'y installer. Et puis maintenant, tous les mardis et les vendredis, ça sent bon le pain à Montbulin.
Oui, il a aménagé le fournil comme il faut.
Oui, c'est bien. Ouais.
Et du coup, vous faites du pain en four à bois avec le moins de mécanisation possible.
Ouais.
Et vous, Guy, quand vous êtes passé à la mécanisation dans votre ferme, quelle est la première chose que vous avez achetée?
On a acheté un tracteur 4 roues motrices.
Mmh.
Bon, on le payait par mensualité.
Ouais.
Et c'est à l'école de mécanique.
Hein, c'était pas le premier, c'était le 4 roues motrices, c'était pas votre premier tracteur, vous aviez eu un petit tracteur avant.
Oui.
Et ça a été toute une histoire aussi, ce premier tracteur que vous aviez commandé l'année de votre mariage, je crois, vous me l'avez raconté souvent, et que tes parents, papa, avaient décommandé parce qu'ils estimaient que c'était pas le moment, que vous pouviez vous en passer et que c'était pas raisonnable. Et
beaucoup ils nous découvraient.
Ouais, ça vous a mis en difficulté dès le départ et que vous l'avez acheté plus tard, mais vous avez eu un départ un peu chaotique à cause de ça.
Le fermier qui essayait de nous appuyer sur la tête pour.
Parce qu'il y a de la concurrence entre fermiers.
Oui.
Ouais.
Et alors, vous avez commencé avec des chevaux?
Ben oui.
Tout à la main?
À la main. Enfin, pour les chevaux, dans les champs orgueilleux, quand le brave en tombait, on pleurait pour pouvoir l'enlever en pleine pente.
Et après, vous avez mécanisé, vous avez eu un petit peu au niveau des vaches aussi. Il y avait la treilleuse qui est arrivée.
Treilleuse à rail, c'est ça?
C'était une treilleuse à poux. Il n'y a jamais eu de comment. Enfin, en quelle année ça a été fait, la stabulation et la salle de traite? En 80, à peu près. Mais avant, c'était en étable avec les pots à traîner. Et maman qui se trimbalait tous les bidons de lait et jusqu'en 80.
Elle a eu de la misère.
Marqué.
La treilleuse était sur un rail et puis on pouvait tirer. Mais un jour le fil était pris dans le dans les poulies. Alors, j'ai voulu le déprendre la décharge. Je suis tombé.
Ça se coupe, ça.
Et alors, 3 générations devant le micro, est-ce que vous avez vu le paysage autour de cette ferme changer en ces 60 ans de génération?
Alors, papa et maman sûrement, hein, vous avez vu les talus qui ont été arrachés dans les années 60, dans le grand champ de vent. Hein, c'est là surtout, parce qu'autrement, il n'a pas eu de temps à servir.
On a fait un verger au lieu d'avoir des pommiers dans les champs.
Oui.
Une seule parcelle de pommes.
Oui. Et autrement, oui, au niveau paysage, enfin, moi en tout cas, je n'ai pas vu énormément de changements sur notre ferme, hein, sur la ferme qu'on louait. Depuis, il y a eu des replantations dans les champs qu'on avait, dans ce grand champ qui avait été remembré. Il y a eu des haies replantées il y a 8 ans à peu près, hein, je crois, 7-8 ans, hein, je pense, environ. Par contre, autour, oui, ça a beaucoup bougé. Et ça bouge toujours.
Et toi, Claire, le paysage, est-ce que...
Mais moi, je n'ai pas suffisamment de souvenirs, je pense, pour mesurer la transformation du paysage. Voilà, moi, je vois surtout les bâtiments, les gens qui changent, en fait. Moi, c'est ça qui m'a surtout marquée. Parce que je pense que petite, c'était... Puis ouais, peut-être qu'il n'y a pas eu tant de transformation que ça sur la ferme en elle-même. Là, aujourd'hui, ouais, voilà, moi, ce qui va changer dans l'environnement du quotidien, c'est que la grange où j'ai appris à faire du tracteur à pédale, elle a été rachetée et qu'il y a des gens qui vont venir habiter dedans. Voilà, mais sinon, je suis quand même contente que la ferme aussi, elle ait été rachetée par quelqu'un qui la rénove avec beaucoup d'applications côté patrimoine. Donc ça, c'est chouette. De voir qu'elle va rester un bâtiment assez beau. Et puis, dans le paysage, y a les arbres. La vallée est très boisée, donc moi, je reconnais les endroits où on allait petite. C'est-à-dire que moi, je marche toujours sur les mêmes chemins quand on descend à Rimou, quand on descend au Couesnon. Je remonte exactement les mêmes chemins que je montais quand j'étais petite. Et ça me surprend toujours de me dire... Ah, mais quand j'ai monté, quand j'étais petite, j'imaginais pas que j'habiterais là plus tard, par exemple. Donc c'est drôle de faire marcher mes enfants aujourd'hui sur les mêmes chemins. Et puis, non, dans le paysage, moi, je repensais à ton séquoia aussi, parce que tu nous en parles régulièrement du séquoia. Ça te dit quelque chose ?
Ouais, je sais plus.
Parce que dans la transmission, moi, c'était ça. T'as planté un séquoia dans le bas du verger en pente.
Oui, ça y est. Oui.
Et puis, régulièrement, qu'est-ce que tu nous dis à propos de ce séquoia ? Tu te rappelles pas ?
Non.
Tu dis, il faut le transmettre de génération en génération. Surtout, tu touches pas au séquoia.
Oui. C'est un arbre qui vient très grand. Et pourtant, il est planté dans le fond. Mais... Il a une source qui l'alimente et autrement, il prend ses racines dans la terre, tout, des deux côtés. Alors, il y a tout pour grandir. Mais oui, c'est à souhaiter que personne ne le coupe. Alors que...
Pour l'instant, on prend soin.
Ah non, ça...
Mais sinon, dans le paysage immédiat... chacun de vous, enfin toi tu nous as légué tes fruitiers greffés quand même, donc ça aussi on en prend soin, et puis le potager de mamie, enfin moi je suis contente aujourd'hui de récupérer ton potager mamie, et tu sais j'ai essayé de remettre la rhubarbe au même endroit et tout pour essayer d'avoir de la rhubarbe aussi grosse, tu vois, voilà. C'est un plus petit paysage, mais...
Par contre, c'est bête, il y a... Le jardinier, il a passé le tracteur, le moteur, dans les tracés de rhubarbe. C'était pourtant une rhubarbe qui ne faisait pas de fleurs.
Qu'on ne voyait pas.
Et pour en venir juste au paysage, moi, j'ai pas connu d'arbres abattus pendant tout le temps que j'étais sur la ferme. On n'a pas abattu un seul arbre, je crois. Et vous, moi, je n'ai pas de souvenir d'arbres abattus. Les haies, elles étaient enlevées quand j'ai mes premiers souvenirs. Hein, et donc, moi, je n'ai pas connu de changement au niveau du paysage, mais du tout, quoi, en fait.
Mais c'est une grande chance.
Oui, sur la ferme, moi, j'ai pas... Et si, le seul changement, c'était, par contre, c'était un peu particulier, c'était la tempête de 87.
Ah.
où là, par contre, parce qu'on a donc la ferme, il y a une partie haute et une partie basse, et donc entre les deux, c'est un bois rocher en pente, et donc dans cette partie-là, ça a été, dans certains endroits, c'était méconnaissable, quoi. Et là, ça a été un sacré coup quand même. Oui, la ferme m'avait perdu un charme. Enfin, moi, en tout cas, ça a été, je trouvais ça assez traumatisant.
Vous racontez une histoire aussi. On descendait la vallée avec Alex Hirachet, un copain, et en arrivant dans un petit bois en dessous, une bestiole qui me rentre dans l'oreille, il semble que la tête allait m'éclater. Alors le copain, il prend un bout de bois, il m'a crevé le tympan, et si bien que... Je n'entends pas des os de la rétroite.
Ah, t'entends oui. Moins bien, oui. Ouais, en tout cas. Oui.
Quelle anecdote. Ouais,
et quand un jour, il y avait une corvée chez mon oncle à la Corbelière, là, et en Chaumier, et puis je suis allé le soir, mon cousin, il dit, Raymond, il dit, tiens, viens, on va aller écouter le poste Galen que mon prof m'a donné. Et alors, je prends les écouteurs, mais je dis, il y en a un qui ne marche pas. et il est inversé dans le bois. Ah, ben c'est là, ça m'est revenu.
Il y avait une explication. J'avais
complètement oublié.
Bah merci à vous quatre.
Merci beaucoup.
Et pour finir, on vous propose, si le cœur vous en dit, de lire le poème que vous nous avez écrit la semaine dernière sur le paysage. Alors, soit c'est vous qui le lisez, soit un de
moi,
votre fils
veux,
ou votre petite
veux,
fille.
Est-ce que tu veux, maman, essayer de le lire?
Tu
peux essayer.
Deux copains se rencontrent. L'un dit à l'autre, tu es un peuplier. Et l'autre répond, et toi, un platane. Le paysage, c'était le blé, répétitionné à l'occupation. C'était l'avoine pour les chevaux et les greniers pour les réserves. Et le paysage, c'était les arbres. Mais ils ont arraché tous les talus avec le répétit.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci. C'était
« J'ai toujours entendu ça »
sur Radio Loisance, une émission réalisée dans le cadre du prix Facile à lire autour de l'ouvrage
« Les pieds dans la terre, 5 histoires de paysans »
de Claire Lecoeuvre et Arnaud Tetelin.
À bientôt.